Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons commencé ce beau mois de novembre en méditant sur la Toussaint. La Toussaint, c'est l'Église triomphante que nous avons pu contempler. Tous les saints réunis au paradis. Et puis, le lendemain de novembre, commémoraison des fidèles défunts, c'était l'Église souffrante pour laquelle nous voulons tout spécialement en ce mois prier afin qu'ils puissent jouir de la vision béatifique le plus rapidement possible selon la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, ce que décrit notre Seigneur à ses apôtres, c'est l'épreuve ultime de l'Église de la terre, de l'Église qui est dite militante, celle qui a encore à combattre. Avant l'avènement glorieux du Christ, l'Église doit en effet passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution dévoilera le mystère d'iniquité, ce mot qu'emploie la Sainte Écriture pour désigner le mystère du mal. Et ce mal aura une forme tout à fait particulière, puisque ce mystère d'iniquité prendra la forme d'une imposture religieuse. Notre Seigneur nous l'avertit, il y aura de pseudo-Christ, de pseudo-prophètes, des gens qui se feront donc passer pour le Christ lui-même, pour le Messie, et puis d'autres qui seront des prophètes, qui annonceront toutes sortes de choses, peut-être même des choses merveilleuses et qu'on aurait envie de croire, mais ce seront de faux prophètes. Ils apporteront les uns et les autres des solutions apparentes aux problèmes des hommes. Mais il y aura toujours un signe, il faudra apostasier la vérité pour croire à ces pseudo-vérités, à ces pseudo-solutions. Alors pour nous qui avons la foi, eh bien nous devons maintenir cette foi vive. Et pour la maintenir vive, je crois qu'il faut aussi la connaître. Ceux qui seront illusionnés seront ceux qui d'abord n'auront pas connu la foi. Non seulement n'auront pas, peut-être pas la foi, mais leur foi sera si faible, si peu dense, si peu connue qu'ils seront illusionnés. Celui qui a une foi vive, c'est-à-dire animée par la charité, celui qui a une foi avec une qualité d'adhésion et de fermeté dans l'adhésion, celui qui connaît ce que le Christ a révélé, ce que Dieu a révélé et que l'Église nous enseigne, il n'y a pas de raison que celui-ci chancelle, si ce n'est que peut-être il puisse être atteint à cause de la volonté. Celui qui est dans les passions, celui qui est terre à terre, ne goûtant pas assez les joies célestes que pourtant il connaît, peut laisser une porte ouverte ici au mystère d'iniquité. L'antichrist ou l'antéchrist, puisque les deux recouvrent la même réalité, l'antichrist c'est celui qui viendra aussi avant le retour glorieux du Christ, il peut donc être dit aussi antéchrist, eh bien c'est l'imposture religieuse suprême, un pseudo-messianisme où l'homme va se glorifier lui-même à la place de Dieu et à la place du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons bien la marque suprême, abandon de la vérité, mais aussi abandon de l'adoration, c'est-à-dire de ce sentiment, ou plus de cet acte propre de l'homme qui reconnaît Dieu comme étant son créateur, comme étant son maître, et il y aura à la place de Dieu, qui seul peut être adoré, il y aura un homme ou il y aura une créature qui pourra être très bien Satan lui-même, puisqu'il va essayer de renouveler cette chose qu'il avait déjà tenté de faire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je te donnerai tous les royaumes de ce monde si maintenant, tout de suite, tu m'adores. Et le Christ aura refusé parce qu'on adore le Dieu seul. À nous aussi de savoir adorer que Dieu seul. À nous aussi de savoir détruire toutes les idoles qui forment peut-être un peu de notre vie ou qui ont un peu prise dans nos vies afin de ne pas laisser, encore une fois, une porte ouverte à l'antéchrist. Il n'y a en effet pas d'autre nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce saint nom détruit les idoles par lui-même, et ce saint nom nous aide à tenir, quand bien même les idéologies peuvent passer, les idéologies même parfois peuvent régner, et peuvent régner longtemps. On l'a vu, que ce soit nazisme, communisme, fascisme, et on en passe. Et en ce moment, peut-être aussi ces idéologies larvées que sont le libéralisme et autres avatars de celui-ci. Alors, la victoire de Dieu qui sera donnée à la fin du monde sera donnée lorsqu'il y aura le déchaînement ultime du mal. Il faut bien voir que tout ce qui est de l'ordre du cosmos qui commencera à apparaître, eh bien, ne viendra que quand il y aura cette exaltation du mal à un point suprême. Et après avoir vécu le siècle de l'enfer, le 20e siècle, on peut se demander ce qui serait encore pire que ce 20e siècle. Le triomphe de Dieu, qui sera effectivement le sien, sur la révolte du mal, se fera par le grand jugement, le jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Alors pourquoi ce jugement? Eh bien pour montrer que c'est Dieu qui triomphe de tout mal. Que c'est Dieu qui triomphe non seulement du mal qui sera présent, cette ultime épreuve de l'Église, mais aussi de tout le mal qui s'est fait pendant le monde. Le Christ va revenir, et il va revenir avec ce grand signe dont il est fait mention dans l'Évangile. Il vient avec cette croix glorieuse. Il vient pour juger les vivants et les morts, ces pauvres vivants qui sont là et qui tremblent à cause de tout cet ébranlement des puissances de la terre et du ciel. Pour juger les vivants et les morts, pourquoi faut-il ce jugement général? Eh bien, pour plusieurs raisons, voyez-vous. Il faut tout d'abord une mise en lumière de la conduite de chacun, une mise en lumière du secret des cœurs. Le Christ vient juger, et il a acquis ce droit par sa croix. Il nous a rachetés aussi à ce titre-là, nous lui appartenons bien. L'humanité tout entière lui appartient, parce qu'il l'a sauvé, qu'il a bien voulu donner toutes les grâces dont chacun avait besoin pour se sauver. Aussi, le jugement général sera là pour que chacun rende compte de cette grâce qu'il a reçue et qu'il a acceptée, peut-être à l'ultime moment de sa vie, ou qu'il a refusée aussi à l'ultime moment de sa vie, puisque le bon Dieu, je pense, donne toujours sa grâce à chacun. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Jugement, non seulement ratification du jugement particulier qui aura été le nôtre, mais jugement général. Toute l'humanité est rassemblée, comme nous l'avons lu dans l'Évangile, rassemblée par les anges devant le Christ qui vient. Jugement de chaque homme avec son corps. Pourquoi? Eh bien parce que les uns et les autres nous aurons ressuscités avec notre corps. Les bons avec leur corps glorieux, les mauvais avec leur corps, mais un corps qui leur permettra uniquement de souffrir davantage. L'homme, la personne humaine, est bien constituée, comme on l'apprend au catéchisme dès le plus jeune âge, d'une âme et d'un corps. Aussi, c'est toute notre personne qui, au jugement général, va être jugée. C'est la personne dans son entier, dans tout ce qui la constitue, et pas seulement dans la partie la plus noble, à savoir son âme. Le corps a aidé à faire le bien, le corps a aidé à faire le mal, il sera lui aussi jugé dans notre personne tout entière. Enfin, les actes également ont une conséquence sociale. Pour la plupart de nos actes, il y a des répercussions sur les uns et sur les autres. Peut-être pas forcément du point de vue naturel, mais du point de vue surnaturel, c'est sûr. Une âme qui s'élève, élève le monde. Mais aussi, on peut dire, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Alors, chacun de nos actes sera jugé ici au jugement général selon ses répercussions sociales. Il y a de belles choses qui sont faites, et des belles choses qui durent, et qui durent encore, et qui portent les âmes. Eh bien, cela, il faut que les hommes qui les ont posés, ces beaux actes, eh bien, soient remerciés, et que l'on puisse voir combien le bien a pu se déployer, parfois même de siècle en siècle, à cause d'une bonne décision. Un gouvernement, ou plutôt un homme de gouvernement qui prend une bonne loi, et qui fait ratifier cette loi, eh bien, effectivement, va pouvoir, pour les siècles, parfois, entraîner les hommes vers le bien, et le contraire, on ne le sait que trop, existe aussi. La réputation également doit être rétablie, doit être vue dans sa véracité. Réputation vraie ou fausse qui va être rétablie. Certains vont pouvoir passer une vie en ayant bonne réputation alors que ce sont des mauvais, et d'autres auront été bannis de la société alors que leurs actes auront peut-être été jugés mauvais, mais l'intention était peut-être bonne, ou l'intention a été faussée, ou on n'a pas su les comprendre, et il faut absolument rétablir cette réputation qui appartient à chacun. Le jugement général est là aussi pour cela. Il faut qu'en effet la justice de Dieu soit absolument faite devant tout le monde. Enfin, ce sera la grande manifestation de la sagesse de Dieu. Peut-être que parfois, on se demande pourquoi le bon Dieu permet telle et telle chose, tel et tel malheur. Pourquoi celui-ci a telle grandeur, pourquoi celui-là a tel malheur. Eh bien, tout sera vu dans la sagesse de Dieu. Aussi, nul ne pourra invoquer une quelconque maladresse de la part de Dieu, un quelconque manque de sagesse, une quelconque manque de justice. Tout sera vu dans le plan même de Dieu et tout sera reconnu comme bon. Alors, les gentils, ceux qui seront placés à la droite du Seigneur, comprendront mille et une choses et loueront la sagesse de Dieu, et les méchants, voyant qu'ils n'ont pas reconnu le plan de Dieu dans leur vie, alors que tout était sagesse, en concevront un plus grand malheur encore, parce qu'ils verront qu'ils n'avaient absolument aucune excuse. Alors la sentence définitive tombera, et le Christ prendra à sa droite les bons, à sa gauche les mauvais. Tout le jugement se fera par rapport à la miséricorde du bon Dieu. Ceux qui auront accueilli la miséricorde de Dieu dans leur vie et auront accepté d'être rendus bons par le Seigneur, et ceux qui l'auront refusé jusqu'au moment ultime de la mort et qui alors seront placés à sa gauche. Tout jugement, le jugement dernier, sera fait par rapport à la miséricorde du bon Dieu. Alors accueillons déjà pour nous ces grandes vérités de la fin du monde, non pas pour nous effrayer des quelconques chamboulements cosmiques, parce que cela, eh bien, déjà nous en avons un avant-goût lorsque nous regardons un tsunami en Orient, ou lorsque nous regardons des catastrophes comme à Haïti, encore que ce soit déjà un avant-goût de ce qui nous est réservé. Mais nous ne devons pas nous effrayer à la rigueur de cela. Nous devons toujours plus comprendre que nous avons à travailler pour pouvoir être vus juste par le Seigneur au jugement général. Dans quel camp, mes bien chers amis, nous voulons être? Dans quel camp nous voulons appartenir? À quel camp? Eh bien, il faut déjà se poser la question aujourd'hui. Est-ce que j'ai des choses à me reprocher? Est-ce que je sais user de la miséricorde du bon Dieu en usant des sacrements de pénitence, en usant des sacrements de l'Eucharistie, en ayant une vie spirituelle authentique, et non pas quelque chose de médiocre qui nous fait être toujours un petit peu sur la corde. Il faut, eh bien, chers amis, prendre conscience de ces grandes réalités pour vouloir de tout notre cœur appartenir à notre Seigneur. Non pas en tremblant, non pas en ayant peur, mais avec un élan surnaturel, avec une joie véritable d'appartenir au Seigneur, quoi qu'il arrive. Si nous appartenons au Seigneur, qui pourra en vérité nous en séparer, comme dit saint Paul, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.